Bonjour à tous, nous sommes les élèves de la 3e Chapeline du Collège La Nadière à Port-la-Nouvelle et nous vous proposons de rencontrer un poète audois au destin exceptionnel, Joe Bousquet. Au cours de cette émission, nous découvrirons la vie et les œuvres de cet écrivain, foudroyé à 21 ans sur le front de la Première Guerre mondiale, qui a consacré tout le reste de son existence à se reconstruire par l'écriture, la pensée et la poésie.
Sois la poésie de ceux qui te brisent.
Toutes les personnes qui ont connu Joe Bousquet disent qu'il avait le génie de la vie. Et grâce à ce magnifique renversement, il offre à ses lecteurs la possibilité de percevoir la beauté du monde malgré les souffrances et les difficultés. Reconnu par ses pairs comme un poète essentiel du XXe siècle, Joe Bousquet est moins visible aujourd'hui. Pourtant, les thèmes qu'il explore et surtout la manière dont il écrit sont encore très actuels. Des réflexions sur l'existence qui font mouche, des fulgurances poétiques pleines de vérités étonnantes.
La poésie est la langue naturelle de ce que nous sommes sans le savoir.
Éline, peux-tu nous parler de la jeunesse de Joe Bousquet, quelque peu atypique ? Dans quelle ville de l'Aude Joe Bousquet est-il né ?
Comme son père était médecin à Narbonne, il a vu le jour dans cette ville, le 19 mars 1897.
Mais est-il possible de situer géographiquement les lieux de son enfance qui ont marqué son écriture ?
Il a passé son enfance à Narbonne les premières années, puis à Carcassonne car son père avait ouvert un cabinet de médecine générale. Il avait aussi une maison de campagne à Villalier. Pendant les vacances, il allait à Marseillans dans sa famille maternelle et à La Palme dans sa famille paternelle. Ces moments privilégiés marqueront son imaginaire et inspireront toute son œuvre.
Mais j'ai entendu dire qu'il a une naissance très particulière, n'est-ce pas ?
Joe Bousquet a foulé la mort 3 fois. À sa naissance, il a fallu le réanimer car il ne respirait plus. Puis vers 2 ans, alors qu'il était dans les bras de sa nourrice, quand celle-ci mourut d'un arrêt cardiaque, le retenant prisonnier contre elle. À 3 ans, il a réchappé de justesse à la fièvre typhoïde.
Après une guérison réputée miraculeuse, demeuré cependant idiot et muet, je reçus les soins d'une 3e femme qui s'appelait Mélanie. Ils me rendirent la parole.
Mais il a déjoué la mort qui rôdait autour de lui. Incroyable! Quel destin! Les habitants de Villalier l'avaient surnommé l'homme-chien. Pourquoi?
Bousquet raconte plusieurs fois cette anecdote. C'était un garçon turbulent, un peu brusque et sauvage, qui mordait parfois les autres enfants.
Avec un comportement pareil, qu'en est-il de sa scolarité ?
Comme il avait un assez bon niveau sans faire d'efforts, il n'a pas vraiment développé de goût pour les études. Il préférait sortir, faire la fête et exercer ses talents de séducteur.
Pour bien comprendre Bousquet, il faut se déplacer dans un petit village à côté de Port-la-Nouvelle, pas tout à fait terrestre, pas encore marin. En effet, La Palme, surnommée Saint-Souris par Joe Bousquet, est la force inépuisable de son inspiration. Avant d'accueillir Willem, écoutons le début du Roi du Sel avec Célia.
Le train s'est arrêté au bord de la mer, devant une baraque entourée de tamaris, qui semble le rendez-vous des eaux et des vents. Cette halte ne voit pas le village, mais un bout de sentier. On cherche la route entre des joncs et des roseaux, qui montent plus haut que les pins. Pas plus que la voie ferrée, l'artère départementale ne mène à Saint-Souris. Ces fils de marins enterrent leurs morts, au faîte de la colline face à l'extrême horizon. Leurs demeures sont bâties de roches noires, marbrées de lueurs qu'il faut arracher aux veines de calcaire. Ils édifient eux-mêmes les murs de pierres sèches qui séparent leurs jardiniers où chaque vigneron surveille un laurier rose. Le soleil qui épanouit cette fleur marque la date des labours.
C'est magnifique. On a l'impression d'être un oiseau survolant cet endroit. Willem, quel est le lien de Joe Bousquet avec La Palme ?
Un lien indéfectible. Dans ses livres, notamment les contes du cycle de La Palme et le Roi du Sel, tout est consigné. Les habitants, les lieux, les caves, les histoires, les odeurs, la nature, les maisons et les fantômes.
C'est moi.
C'est ton image.
Et mon image, que voit-elle avec des yeux si tristes ?
Elle voit ce que tu caches avec ton sourire.
Willem, quelle trace a-t-il laissé à La Palme ?
Une plaque en sa mémoire a été installée sur la façade de la maison de ses grands-parents, où il résidait pendant ses vacances au numéro 5 et la rue a été rebaptisée en son nom.
Mais est-ce qu'il y a encore des événements ayant rapport avec lui ?
Oui. Depuis 20 ans, à chaque pleine lune d'août, l'association La Palme et Joe Bousquet fête dignement l'auteur par un moment convivial et culturel. Grillade aux pastourelles agrémentée de spectacles, conférences, lectures, musique.
Quelle est la place de La Palme dans ses œuvres ?
Une place énorme. Il le traduit par une campagne qui a été ta mère, un village marin a été ton père. Ce village de pêcheurs porte le nom de La Palme. À peine Bousquet a-t-il lancé ce nom que déjà, 1001 souvenirs se bousculent dans son esprit.
Qu'as-tu gagné à naviguer si loin ?
J'ai gagné de voir mon village depuis le fond de mes yeux.
C'est un avantage si on pense que tu aurais pu le revoir depuis le fond de la mer, mais je te ferai plus de compliments si tu nous apprenais à quoi tu l'as reconnu.
Je ne l'ai pas reconnu, mais chaque chose que j'y ai vue m'a tiré des larmes et il m'a semblé que mes yeux en devenaient la fleur.
Pourtant, si Joe Bousquet a marqué son siècle, c'est notamment à cause de sa blessure de guerre. Dylan, pourquoi devance-t-il l'appel de mobilisation en 1916 ?
Joe Bousquet voulait partir au front par esprit rebelle, pour échapper à la vie bourgeoise et médiocre qui lui était promise, et peut-être aussi pour se désengager de ses diverses et multiples relations amoureuses. Donc, en 1916, il incorpore le 139e régiment d'infanterie à Aurillac, puis part à Saint-Mexant. De mai à octobre, en novembre, il incorpore le 156e régiment d'infanterie, choisi parce que c'est un corps d'attaque.
Joe Bousquet est très vite monté en grade. Dylan, peux-tu nous parler de son baptême du feu ?
Oui, c'est un terme du jargon militaire faisant référence à la première expérience de combat d'une nouvelle recrue de l'armée. Ce jour-là, Joe Bousquet, à la tête d'une section d'un régiment disciplinaire, est cité à l'ordre de l'armée et décoré sur le champ de bataille. En quelques mois, il devient l'officier le plus décoré de son régiment.
Dans ce contexte militaire, découvrons maintenant les circonstances qui ont mené à la terrible blessure du 27 mai 1918. Céline, quel était le comportement de Joe Bousquet pendant la guerre ?
Déjà, il a devancé l'appel. Il allait toujours en première ligne. C'était suicidaire. Entre rage et jouissance, la guerre offre aux voyous l'occasion de donner libre cours à ses passions funestes en se détruisant. Il est parti au front pour l'amour d'une femme, désespéré, avec le désir d'en finir avec la vie. Il survivra, paralysé des jambes.
Un vrai héros romantique. Mais le moment crucial, la blessure, quand est-elle survenue ?
Le 27 mai 1918, à Vély, Joe Bousquet, tout juste 20 ans, a été foudroyé par une balle allemande qui lui sectionna la moelle épinière. Sa vie bascule.
Nous étions cernés par des Allemands qui avançaient de trois côtés à la fois. Ils étaient 40 fois plus nombreux que nous. C'est à ce moment-là que j'ai compris que c'était fini et je suis resté debout. Alors une balle m'a atteint en pleine poitrine.
Mais que provoque la blessure chez Joe Bousquet ?
Il fut changé en lui-même. Comme il l'écrira plus tard, la rupture de la continuité temporelle et signifiante de son existence le contraint à un profond remaniement psychique.
Aux yeux de faïence, des jolis joujoux, naît l'amour d'enfance qui finit sans nous. Dans les yeux de brume, des fantômes noirs, tout ce que nous fûmes est mort sans nous voir. Mais l'azur qui sombre sous le poids d'un lys abandonne aux ombres d'effacer l'oubli et ses pleurs fiancent le ciel qu'il n'est plus aux yeux en enfance des jours jamais vus. Que ma peine est lente à suivre sans moi les joujoux qui chantent mon cœur d'autrefois. L'heure de la rosée qui fut tout l'amour de leur voix brisée dans mes champs d'un jour quand les froids emmènent les enfants qu'ils sont. Ils ont de la peine à porter leur nom si lourd de leur âme qu'à la croix des cieux le flot noir qui rame au cœur de leurs yeux. Quand les jours se lassent, des joujoux salis, leurs yeux noirs s'effacent dans des yeux d'oubli. Dans un vol d'abeilles, sous les ors muets, des maisons qui veillent s'en vont les jouer. Sous le pleur d'une heure, payés d'un gros sou, les enfants qui meurent de nos champs de fous. Sous nos pleurs d'une heure, payés d'un gros sou, les enfants qui meurent de nos champs de fous.
Julie, donne-nous quelques explications sur la lettre adressée au poète Carlos Suarez, où Bousquet raconte tous les détails de cette journée fatale.
Cette fameuse lettre, la plus détaillée sur sa blessure, est essentielle à la compréhension de la journée du 27 mai 1918, mais également des jours précédents. Il appelle son ami « mon cher Joe », comme s'il adressait cette lettre à lui-même.
Que doit-on retenir du 27 mai 1918 ?
Des camions sont venus chercher Joe Bousquet, avec ses soldats, pour les amener à Vély. Il ne devait pas se battre ce jour-là, mais les deux autres régiments envoyés en amont s'étant dissipés, ils durent leur porter secours même si c'était très risqué. Au final, ils les ont totalement remplacés. Quelques survivants s'approchaient d'eux, mais Joe Bousquet les empêchait de leur parler, car il ne voulait pas qu'il démoralise sa troupe.
C'était très courageux de sa part. Ont-ils gagné ?
Pas vraiment. Des milliers de morts des deux côtés, mais ils ont dissuadé les troupes allemandes d'envahir la France.
Ce dernier assaut était donc très important.
En effet, sinon nous serions devenus une colonie allemande. Suite à ce combat, Joe Bousquet, blessé et paralysé des deux jambes, est alors transporté jusqu'à l'hôpital américain de Ris-Orangis. On le soigne et on essaye même de le rééduquer pour qu'il puisse remarcher. Mais rapidement, il abandonne tous ses faux espoirs.
Ramené à Carcassonne, il s'installe dans la maison de son grand-père, rue de Verdun, où toute une nouvelle vie s'organise, comme va nous l'expliquer Angelo.
Joe Bousquet, ne pouvant plus se déplacer, sans espoir de guérison, crée un monde autour de lui. Pour rester maître de ce qui lui arrive, il s'enferme dans sa chambre, au volet clos, en couvrant les murs de tous les tableaux surréalistes qu'il aimait. Pour combattre la douleur liée à sa paralysie, les médecins lui prescrivent de l'opium, ce qui peut expliquer que certains poèmes nous paraissent complètement hallucinés.
Combien de temps a-t-il survécu ainsi ?
26 ans, de 1924 à 1950, mais sa vie n'était pas morose puisque le monde venait à lui, des maîtresses avec lesquelles il entretenait des correspondances enflammées.
Justement, qui rendait visite à Joe Bousquet ?
Parmi les plus fidèles, François-Paul Alibert, poète et journaliste carcassonnais, René Nelly, poète et historien professeur, Ferdinand Alquier, philosophe, Claude-Louis Estève, philosophe, ensemble, ils ont créé la revue Chantier, qui marque son temps en proposant une réflexion neuve et vivifiante sur la littérature. Le nom de Joe Bousquet circule. Il est alors contacté par Paul Éluard et André Breton, les chefs de file du surréalisme.
Alison, des membres connus du groupe surréaliste étaient en lien avec Joe Bousquet. Lesquels ?
Louis Aragon, Henri Michaud, parmi les poètes, Max Ernst, René Magritte, Salvador Dali pour les peintres.
Qui est venu le voir dans sa chambre ?
La plupart d'entre eux. La visite aux voyageurs immobiles de Carcassonne était un must à l'époque. Joe Bousquet avait, paraît-il, une présence exceptionnelle. Une star de la culture. Avec Jean Ballard et André Gaillard, ils travaillent sur la revue littéraire Les Cahiers du Sud, dont Joe Bousquet deviendra très vite l'éminence grise.
Arthur, quelle relation tous ces écrivains, artistes et philosophes avaient avec Joe Bousquet ?
C'était une sorte de catalyseur révélateur pour Paul Éluard, René Char, Gaston Bachelard et Hans Bellmer. Des échanges de pensées s'établirent avec Carlos Suarez, Jean Cassou, Jean Paulhan, Raymond Queneau, Robert Desnos, Julien Benda, Elsa Triolet et Gaston Gallimard.
Que du bon monde dans la chambre du 53 rue de Verdun à Carcassonne.
On sait que Joe Bousquet entretenait des relations amoureuses avec les femmes, mais ce ne fut pas le cas avec la philosophe Simone Veil. Lorenzo, éclaire-nous sur cette rencontre importante.
Simone Veil est une philosophe humaniste du XXe siècle, née en 1909 à Paris. Elle entretenait déjà une correspondance avec Joe quand Jean Ballard, directeur des Cahiers du Sud, a senti la nécessité d'une rencontre physique entre ces deux grands esprits. Il conduit donc Simone Veil de Marseille à Carcassonne dans la nuit du 28 mars 1942.
On peut donc imaginer qu'ils ont passé une nuit blanche. Que se sont-ils racontés ?
Dans un respect mutuel, ils ont discuté de philosophie, de littérature et d'engagement. D'ailleurs, ils ont décidé de mettre au point des brigades d'infirmières pour soigner les blessés au front. Pour en savoir un peu plus, cette lettre de leur échange témoigne de leur relation. Leur rencontre a représenté pour l'un et l'autre un choc intellectuel, spirituel, existentiel dont l'onde va traverser le temps qu'il reste à vivre.
Joe Bousquet avait un charme magnétique qu'il exerçait sur ses jolies visiteuses. Ces relations ont donné naissance à une correspondance abondante en échanges philosophiques et amoureux. Anthony, parle-nous des lettres à Poisson d'Or.
Joe Bousquet rencontre en 1937 Germaine dans un salon. Elle est jeune, elle a 21 ans et lui 40. Il la nomme Golden Fish, Poisson d'Or. Elle illumine sa vie d'écrivain dans leurs échanges épistolaires qui dureront 12 ans. L'écriture est à tomber. Elle est poétique et délicate, donnant le frisson et touchant l'âme.
Parmi les femmes qui ont beaucoup compté pour Joe Bousquet, il est impossible de ne pas parler de Ginette Augier. Aïna, on t'écoute.
Quand ils se sont rencontrés à Villallier, les deux familles étaient amies. Mais Ginette était mineure et faisait le mur la nuit pour aller le rejoindre après avoir parcouru 7 ou 8 kilomètres dans la garrigue.
Déjà un caractère bien trempé, qu'en est-il de la correspondance ?
Les lettres à Ginette Augier se répartissaient en trois périodes bien tranchées. Les années de Carcassonne, 1929-1930, celle de Toulouse, 1930-1934, celle de Paris, 1934-1950. Dans les années 30, Ginette occupe exclusivement la vie sentimentale du poète blessé et représente pour lui l'impossible bonheur. Malgré leur séparation physique, puisque Ginette va suivre son mari au Maroc, elle n'aura de cesse de faire vivre la mémoire de Joe jusqu'à la fin de sa vie en 2001.
Revenons à Marthe, celle qui fut le détonateur de l'histoire de Joe Bousquet. Marine, raconte-nous cette histoire d'amour au destin tragique.
En 1917, lors d'une permission, Joe, âgé de 20 ans, rencontre au théâtre de Béziers Marthe Marquet. Double révélation amoureuse qui bouleversera leur vie. Ils s'aiment pendant quelques jours jusqu'au délire. Mais retourné au front, Joey ne voit que des obstacles à tout projet de mariage avec sa bien-aimée. Elle menace alors de se suicider. Il se précipite au combat et s'expose à l'attaque allemande du 27 mai 1918. S'en suivra un échange de lettres passionnant.
Elle a promené dans les villes le pas qui tremblait sur les eaux. Une chanson la déshabille. Son silence est né d'un oiseau. Elle illumine la lumière comme l'étoile du matin. Quand tout le ciel est sa paupière, embellit le jour qui l'éteint. Mais l'astre d'où le ciel s'envole, cette île où nos voeux sont allés, quand mon cœur bercé de paroles se meurt de la chanson qu'il est, quel mal trouvait-elle à me plaire, qu'un aveu me l'ôte sitôt, mouillant ses regards de sorcière, des pleurs qu'il a prises au ruisseau. Hélas, ne pleurez point, madame, si j'ai mes jolis soins perdus près d'un enfant aux yeux de femme qui joue à l'amant qu'il n'est plus. Hélas, ne pleurez point, madame, si j'ai mes jolis soins perdus près d'un enfant aux yeux de femme qui joue à l'amant qu'il n'est plus.
Joey Bousquet est un personnage foisonnant malgré son immobilité. Découvrez l'ampleur de son œuvre en commençant par deux livres, Le Meneur de Lune, présenté par Alexis.
Le Meneur de Lune est une autobiographie du poète sortie en 1946. C'est un portrait chronologique qui retrace les événements de sa vie. Anecdotes, réflexions sur sa vie, l'amour, la mort, les femmes. Livre parfait pour découvrir Joey Bousquet.
Second livre, La Tisane de Sarment, présenté par Luc.
Dans ce livre, édité par De Noël en 1936, Joey Bousquet nous livre ses émotions et ses pensées face aux événements qui lui arrivent, racontés en trois points de vue, celui de la réalité, celui du rêve et celui de la prophétie. Le résultat est éblouissant et donne le vertige.
Comment la critique a-t-elle reçu ce livre ?
La majorité des journaux de l'époque ont salué la publication de ce roman. Plusieurs grands penseurs comme Gaston Bachelard ou Gilles Deleuze ont écrit des articles élogieux. Alain Robbe-Grillet y voit le précurseur du nouveau roman. Mais pour le succès public, il faudra attendre 1941 et la publication de « Traduit du silence », une magnifique collection de fulgurances poétiques éparpillées sur des cahiers autour de son lit.
Seul, couché dans mon lit, j'ai atteint des hauteurs telles que j'ai creusé le ciel. Enfermé dans ma chambre, enfermé dans mon corps, je rayonne dans cette lumière immobile. Le mal comme le bien a son ciel en moi, et je connais la voluptueuse satisfaction de n'être médiocre en rien. Chaque jour, je redécouvre que j'ai été blessée, que je suis blessée, et je dois à cette blessure d'avoir appris que tous les hommes étaient blessés comme moi.
Et dans le noir, derrière le brouillard, j'entends ce piano chanter. Chanter l'espoir, l'envie de croire qu'on peut tout réinventer. Alors je joins ma voix encore une fois. courage.
Y'a pas de recette pour supporter les épreuves, remonter le cours des fleuves quand les tragédies pleuvent. Y'a pas de recette pour encaisser les drames, franchir les mers à la rame quand l'horreur te fait du charme. Y'a pas de recette, toi t'en avais pas non plus, personne t'avait prévenu, tu t'es battu comme t'as pu. Y'a pas de recette quand l'enfer te serre la main, abandonner cet humain, l'avenir c'est loin. Mais tu t'es mise à chanter, même pas par choix, comme à chaque chute, à chaque fois ça s'est imposé à toi. Chanter comme un enfant surpris, comme un instinct de survie, comme un instant de furie. Chanter pour accepter, exprimer, résister, avancer, progresser, exister, chanter comme une résilience, une délivrance, chanter comme une évidence.
Et dans le noir, derrière le brouillard, j'entends ce piano chanter. Chanter l'espoir, l'envie de croire qu'on peut tout réinventer. Alors je joins ma voix encore une fois pour tenir dans l'orage. Je joins ma voix encore une fois pour trouver le courage.
À quel moment tu comprends que c'est ton truc, que la musique revient pour te relever de chaque chute? À quel moment tu sais qu'elle est ta boussole, quand la vie te punit, la musique te console? À quel moment ce piano a chanté, ses accords t'ont hanté, ont choyé ta santé? À quel moment il est ta respiration, et à quel moment on en fait une chanson?
Si je me sens comme une enfant, j'ai déjà eu plusieurs vies. Je peux regarder devant en chantant ce qu'on m'a pris.
Moi aussi j'ai connu une sorte de brouillard, et j'ai entendu ce piano au loin. Et moi aussi sans vraiment le prévoir, naturellement ma voix l'a rejoint. On n'a pas du tout la même histoire, et finalement quelques points communs. Comme un air de force oratoire, j'écris, tu chantes, le brouillard est bien loin.
Et dans le noir, derrière le brouillard, j'entends ce piano chanter. Chanter l'espoir, l'envie de croire qu'on peut tout réinventer. Alors je joins ma voix encore une fois pour tenir dans l'orage. Je joins ma voix encore une fois pour trouver le courage.
C'était Joe Bousqué, un destin exceptionnel, émission réalisée par les élèves de la classe de 3e Chaplin et le dispositif Ulysse 2 au collège de Port-la-Nouvelle à Nadière.
Encadrée par Nathalie Demier, intervenante de la compagnie La Poussette, Renaud Antal et Emiliane Palomares. Professeur, enregistrée par Atomic Radio, cette émission fait partie du projet Éloquence, soutenu par le rectorat de Montpellier. Un grand merci à Monsieur Liffant, principal du collège, qui a permis cette réalisation.
Un grand merci au centre Joe Bousqué et son temps à Carcassonne.
Ainsi qu'à l'association La Palme et Joe Bousqué pour les documents et les conseils.